Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأس ساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir et bienvenue à l'écoute de Radio Téhéran en ce lundi 5 septembre 2022. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute, restez avec nous. L'Iran envisagera d'autres options si l'Occident retarde l'accord nucléaire. Irak, 5 terroristes daéchistes ont été tués dans le nord du pays. Et l'Algérie et l'Italie veulent accélérer la mise en œuvre des décisions prises sur le gaz et l'énergie. C'était les principaux titres. En voici le journal. Un non-législateur iranien a appelé dimanche 4 septembre les pays occidentaux à ne pas retarder la conclusion d'un accord nucléaire, avertissant que, dans le cas contraire, l'Iran envisagerait d'autres options. Mahmoud Abbasadeh Meshkini, membre de la Commission de la Sécurité nationale et de la politique étrangère du Parlement iranien, a indiqué à l'agence presse officielle iranienne IRNA qu'un accord gagnant-gagnant était essentiel pour garantir les intérêts nationaux de l'Iran. Les Occidentaux ont davantage besoin de négociations que l'Iran. Si la partie occidentale ne conclut pas un accord, nous avons d'autres options sur la table et les mains de l'Iran ne sont pas vides à cet égard, a-t-il souligné. En réponse à une question sur la problématique des garanties, le responsable iranien a assuré que la résolution de celle-ci pouvait réparer le mur endommagé de la confiance entre l'Iran et l'Occident. L'Iran a plusieurs fois affirmé que les allégations de l'Agence internationale de l'énergie atomique IAEA sur des traces d'uranium trouvées dans le passé dans certains de ses sites nucléaires étaient politiques et que ce dossier devait être clos simultanément à la relance de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, officiellement connu sous le nom de plan d'action global conjoint. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a eu une conversation téléphonique dimanche 4 septembre avec son homologue indien, Subrahmanyam Jaishankar, sur des questions à l'ordre du jour, des relations bilatérales ainsi que sur certaines questions d'intérêt commun dans les domaines régional et international. Le chef de la diplomatie iranienne a transmis les salutations du président iranien, Ebrahim Raisi, au premier ministre indien, Narendra Modi. Évoquant le développement des relations entre les deux pays, M. Amir Abdollahian a qualifié de satisfaisant les fruits de sa récente visite en Inde et a déclaré que la République islamique d'Iran était prête à mettre en œuvre les accords conclus lors de cette visite officielle. Nous sommes prêts à organiser une nouvelle série de réunions du comité mixte pour la coopération économique entre les deux pays, a-t-il encore ajouté. À son tour, le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, a évoqué le bon niveau des relations et de la coopération entre les deux pays, exprimant son espoir que les relations se développeraient et s'amélioreraient dans divers domaines. Nous avons toujours soutenu la résolution de la question nucléaire iranienne et ce soutien se poursuivra à l'avenir, a souligné le ministre indien des Affaires étrangères. Le chef de la diplomatie iranienne a reçu l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Yémen, Hans Grundberg, dimanche à Téhéran. Les deux diplomates se sont entretenus des derniers développements au Yémen. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, tout en soulignant qu'il incombait au peuple yéménite de décider de l'avenir de son pays, a déclaré que la République islamique d'Iran souhaitait la paix, la stabilité et la sécurité pour la grande nation yéménite et pour toute la région et le golfe Persique. M. Amir Abdollahian a insisté que la poursuite des conditions actuelles, y compris la trêve permanente, dépend de la levée complète du siège imposé au peuple yéménite. L'envoyé des Nations Unies pour le Yémen a pour sa part exprimé sa gratitude pour les actions constructives de la République islamique d'Iran, a souligné qu'il cherchait à établir un cessez-le-feu depuis le début de sa mission en tant que représentant spécial des Nations Unies. Grunberg ajoutait qu'il a toujours souligné la nécessité d'un cessez-le-feu durable et permanent avec la participation de toutes les parties. 5 terroristes daéchistes, dont 2 dirigeants locaux, ont été tués dimanche 4 septembre au cours de 2 opérations visant à débusquer les terroristes. Ce groupe dans le nord de l'Irak a annoncé l'armée irakienne. Un communiqué du service de presse et du commandement des opérations conjointes d'Irak a déclaré que les forces de sécurité irakiennes ont attaqué 2 cachets de Daesh, dont elles ont tué 3 membres lors d'une opération dans la province de Kirkuk, dans le nord de l'Irak. Les forces de l'armée irakienne ont également saisi 4 engins explosifs, une ceinture d'explosifs, une moto, une caméra et d'autres pièces d'équipement sur les lieux, selon le communiqué. Un autre communiqué du service de presse du commandement des opérations conjointes d'Irak indique qu'une unité conjointe de l'armée et des forces Hashd al-Shaabi ont éliminé un cadre local de Daesh et un autre terroriste après les avoir encerclés dans les monts Imren, à la frontière entre les provinces de Kirkuk et de Salahuddin. En Syrie, un total de 171 civils ont été tués à ce jour de dimanche 4 septembre 2022 par les explosions de mines terrestres et d'autres équipements militaires abandonnés dans d'anciennes zones de guerre en Syrie. Un correspondant de Sana'a, l'agence de presse officielle syrienne à Homs, a indiqué qu'une mine abandonnée par les terroristes avait explosé dans une ferme agricole appartenant au village d'Al-Dabba dans la région d'Al-Usayr, ce qui a fait 3 enfants martyrs. Cette année, 171 civils ont été tués par des explosifs, dont 86 enfants. 251 personnes avaient été blessées, dont 141 enfants. Dimanche 4 septembre, 3 enfants ont été tués par un engin explosif dans le village de Dabba, dans le sud de la province d'Homs. L'armée syrienne a fait sauter presque chaque semaine les explosifs qu'elle découvre dans d'anciennes zones de combat. En juin, les Nations Unies ont affirmé que la présence de matériel militaire explosif représentait un grand sujet de préoccupation en matière de protection, alors qu'on estime qu'un Syrien sur 2 vit dans des zones contaminées. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a eu dimanche 4 septembre un entretien téléphonique avec son homologue italien Sergio Mattarella, lors duquel ils ont échangé les vues sur les relations bilatérales et exceptionnelles entre les deux pays amis dans plusieurs domaines, a indiqué un communiqué de la présidence algérienne. Tout en saluant, selon la même source, la solidité de ces relations exceptionnelles et de haut niveau établies entre les deux pays amis dans plusieurs domaines, les deux chefs d'État ont examiné les moyens à même d'accélérer la mise en œuvre des résultats des visites des deux chefs d'État et des différentes décisions prises dans l'intérêt des deux peuples. Ils ont souligné le maintien des canaux de communication ouverts pour la coordination et la concertation permanente, a ajouté la même source. En déplacement à la fin du mois de mai dernier en Italie, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a renouvelé l'engagement de l'Algérie à satisfaire tous les besoins énergétiques de l'Italie. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les autorités italiennes se sont tournées vers l'Algérie pour lui demander d'augmenter ses livraisons de gaz. Les Italiens veulent obtenir la livraison de 10 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires, sachant qu'en 2021, l'Algérie a acheminé via le gazoduc transméditerranéen un total de 22 milliards de mètres cubes de cette énergie. Outre le gaz, l'Algérie et l'Italie avaient annoncé, Abdelmadjid Tebboune à Rome, ont conclu un autre accord portant sur la fourniture de l'électricité à l'Italie et à une partie de l'Europe via une ligne maritime. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. l'Algérie réarmera Gaza. Y a-t-il une quelconque modalité de commerce entre l'entité israélienne d'une part et l'Algérie de l'autre? Évidemment que non, et mille fois plus qu'une. Alors pourquoi les sunnistes se mettent-ils à prétendre vouloir sanctionner les entreprises algériennes? Pour éviter un véritable naufrage dont leur politique maghrébine fait l'objet depuis qu'Alger a décidé de se rapprocher de la résistance palestinienne, y compris de son aile frériste, au point même d'ambitionner de remplacer la Turquie auprès du Hamas. Au fait, cette perspective qui équivaut in fine à une totale rupture avec l'idée d'un quelconque compromis Israël-Palestine suscite une autre crainte. Celle d'une coopération militaire étroite entre Alger et Gaza qui serait à même de renvoyer largement la balle de la normalisation dans le camp sioniste. Alger compte-t-il s'engager de plus près à Gaza, de présider à un échange de combattants, d'expériences militaires, d'armes entre Gaza et le Sahara à l'effet de basculer le jeu maghrébin en faveur de la résistance? C'est plus qu'une probabilité, sinon comment comprendre cette avalanche d'annonces précipitées de la part d'Israël qui touche tous les domaines et dont l'objectif consiste à impressionner la résistance maghrébine. En voici une première annonce colportée depuis quelques jours par les agences pro-sionistes. Le ministre de la Guerre d'Israël a dans ce cadre fait part de l'imposition de sanctions à 20 personnes et entreprises, une société algérienne entre autres, à cause de leur lien avec le Hamas. Récemment, le ministre israélien de la Guerre allègue que la société algérienne Sedar soutient le mouvement de résistance islamique Hamas avec d'autres sociétés arabes. Le groupe Sedar est l'une des plus importantes entreprises algériennes dans le domaine du fer et de l'acier et dispose de 7 branches dans la production de barres d'armature, de plaques d'acier et de tuyaux. Selon un communiqué publié par le bureau de Benny Gantz, le Hamas a des investissements d'une valeur de centaines de millions de dollars par le biais d'entreprises arabes. Israël a-t-il peur que ses productions servent dans les ateliers de Gaza à la fabrication des armes? Or, cette annonce entrecroise une autre, celle qui a l'air du déjà vu, mais que les sionistes mettent au devant de la scène, là encore pour cacher leur inquiétude. Selon ce rapport, Rabat se doterait d'une nouvelle base aérienne dans la zone militaire nord. La nouvelle base militaire devrait être construite dans le nord du Maroc, près de la ville d'Oseim, où l'armée marocaine est censée installer les DCA achetés à la Chine, aux États-Unis et à Israël. La décision de créer cette nouvelle infrastructure fait aussi suite à l'établissement d'une zone militaire dans l'est du pays, près de la frontière algérienne. Mais comme si cette deuxième annonce ne suffisait pas, il y a une troisième information que rapportent les médias pro-sionistes. D'après eux, Rabat aurait décidé d'aller encore plus loin, demandant à l'entité de lui fournir des drones de type Hermès 450. Ce drone tactique devrait donc s'ajouter au kamikaze Arop, au drone de collecte de renseignements sionistes arrivé au Royaume pour espionner l'Algérie ou liquider les Sahrawis. Mais quelle est cette crainte que pousse Israël à bomber autant le torse? La réponse, il faut la rechercher dans les rues de la Cisjordanie et à Gaza, là où tout Palestinien est convaincu qu'Alger a étouffé dans l'œuf la normalisation.
Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau débat. Aujourd'hui, comme sujet, nous avons Karish. Donc jamais depuis 2006, les risques de guerre entre le Liban et l'entité sioniste ont été aussi élevés, surtout notamment depuis que le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a menacé de recourir à la force afin d'empêcher Israël d'extraire unilatéralement du gaz des champs de la Méditerranée orientale. La diplomatie s'active ouvertement et en coulisses pour éviter un conflit aux conséquences inculcables. Donc, le Liban, l'Israël, gros enjeu gazier, risque de guerre. À l'heure actuelle, on est en septembre, la date limite du leader chiite qui a explicitement exprimé à Israël le fait qu'il risque d'attaquer donc le camp gazier de Karish où les bateaux israéliens se sont logés. Ces menaces, donc réitérées à plusieurs reprises ces dernières semaines, ont été précédées le 2 juillet du lancement de 3 drones de surveillance vers la plateforme de Karish. Nous avons préparé donc un petit reportage afin de vous résumer en quelques mots ce qui s'y passe.
Concernant la position du régime sioniste dans l'affaire de la délimitation des frontières maritimes entre le Liban et Israël, il semble que l'entité initiée par les États-Unis cherche lamentablement à reporter la procédure de négociation sur le champ offshore controversé de Karish pour au moins 2 mois en usant de diverses excuses. Les médias sionistes qui, au cours des 2 derniers mois, se sont concentrés sur l'actualité du conflit frontalier entre le Liban et la Palestine occupée, tentent de faire croire que cette affaire peut être résolue par des négociations et qu'il n'est pas nécessaire de recourir à une option militaire. Il est à noter qu'après la mise en garde de Sayed Hassan Nasrallah sur toute agression du régime sioniste dans la zone maritime disputée avec le Liban, les médias israéliens ont rapporté plus tôt que les autorités israéliennes avaient décidé de reporter l'opération d'exploration gazière du champ de Karish à fin septembre. Alors que le dossier du différend frontalier entre Beyrouth et la Palestine occupée a fait la une des journaux israéliens au cours des 2 derniers mois, ces derniers ont tenté dernièrement de faire croire à l'opinion publique que le dossier pourrait être résolu par des négociations sans avoir recours à l'option militaire. En croire les médias sionistes, Israël a proposé de céder une partie de la zone maritime, probablement la partie sud du champ gazier de Cana, en échange de prendre le contrôle d'une zone proche de la côte, ce qui s'était déjà heurté à une forte opposition du Liban. Des sources libanaises ont déclaré à cet égard que cette demande du régime sioniste se fait sous la même forme que les anciennes exigences du régime en matière de partage des terres qui ont été jusqu'ici rejetées par le Liban. La demande d'Israël de lui céder une zone en mer en échange de l'accès à une zone sur la côte vise à élaborer un grand projet d'ingénierie dans le cadre du projet de démarcation qui correspond en tout point aux ambitions de Tel Aviv. Cependant, les sionistes redoutent que le Liban ne revienne sur sa position concernant les négociations autour de la 29e ligne, car il est bien évident que ceci n'est point dans l'intérêt d'Israël, d'où la décision de vouloir reporter ses ouvrages. Mais la question se pose de savoir quels objectifs l'Amérique et Israël essaient d'atteindre à partir de leur tergiversation délibérée dans les négociations de démarcation maritime.
Voilà, ça c'était notre reportage. Comme le veut l'usage de notre débat, nous avons des invités qui nous suivent par téléphone ou par Skype. À l'heure actuelle, nous avons avec nous André Chami, juriste international. Bonjour Monsieur Chami.
Bonjour Madame.
Alors, on était en train donc de parler de Karish, de la situation au Liban, pas que également. À notre deuxième invité est arrivé, donc le docteur en géopolitique de l'Université islamique de Beyrouth est avec nous, donc docteur Ghada Aboula. Bonjour madame, elle n'est pas encore arrivée. Donc, le sujet, Karish, le Liban, pas que, il y a également le Moyen-Orient qui est en ébullition. La différence entre les ébullitions précédentes et aujourd'hui, c'est que c'est le peuple lui-même du Moyen-Orient qui s'oppose aux décisions internationales. Monsieur André Chami, en quelques mots, qu'est-ce que vous pourriez dire à l'heure actuelle de Karish, de ce qui s'y passe ?
Aujourd'hui, c'est la prise en main par la résistance libanaise, si j'ose dire, du patrimoine libanais, parce que jusqu'à maintenant, l'État libanais, l'ensemble de la classe politique libanaise a été d'une médiocrité insupportable et a négligé cette question pendant des années sur 2 aspects. D'abord, la délimitation, c'est-à-dire le territoire libanais notamment la partie maritime, mais également la capacité d'exploitation. Parce que même si vous délimitez et vous savez où se trouve votre territoire, ou en tout cas votre champ d'intervention maritime, vous n'avez pas la capacité d'exploiter cette fortune souterraine parce qu'il y a des oppositions américaines. D'ailleurs, la compagnie Total s'est vue confier l'exploitation et l'exploration de ce qu'on appelle le bloc 4, c'est-à-dire en face pratiquement du centre du Liban, en face des deux villes entre Batroun et Byblos. Et cette compagnie s'est d'abord déployée sur place et puis ensuite a quitté le territoire libanais sans dire le moindre mot de plausible par rapport à son activité, si ce n'est de dire ou faire dire qu'on n'aurait rien trouvé. Et moi, si ça avait été le cas, j'aurais dit, écoutez, vous n'avez rien trouvé, vous laissez le champ et on va le confier à quelqu'un d'autre. Sauf que l'État libanais, qui est encore une fois d'une médiocrité insupportable, mais bien entendu, ne fait rien, laisse filer. Et à un moment donné, il y a l'entité sioniste qui commence à se rapprocher de plus en plus du territoire libanais et commence à exploiter. C'est la raison pour laquelle il y a eu ce que j'appellerais la bombe Karish, c'est-à-dire il y a un déplacement de plateformes gréco-israélienne pour exploiter et explorer le champ qui se trouve dans la zone Karish. Et à ce moment-là, évidemment, la résistance libanaise a dû se lever parce que, en face de l'échec, sinon de la démission de l'État libanais, il n'y a que la résistance qui est capable de faire face à ce vol caractérisé. Et à ce moment-là, évidemment, la réponse de Saïd Hassan Nasrallah a été claire. En tout cas, la position annoncée et affichée a été claire que maintenant, il est temps qu'on mette un terme à cette mascarade. Et nous allons prendre en main cette situation-là. Et si les talibans ne font rien, nous en fera. En revanche, si les talibanais reprennent ses responsabilités, nous ne serons derrière. Or, l'État libanais, même aujourd'hui, malgré quelques déclarations de principe, n'a toujours rien fait. Il a fallu donc attendre les déclarations de Saïd Hassan Nasrallah pour dire que de toute façon, nous aurons recours à la force pour empêcher non seulement Karish de continuer d'exploiter ou de commencer d'exploiter, mais on empêchera les autres de continuer d'exploiter. Et en contrepartie, nous exigeons, et cette exigence est une première en la forme et dans le fond, nous exigeons que non seulement que notre territoire soit délimité et que le vol de notre patrimoine cesse, mais également que nous reprenions la capacité d'exploiter nos ressources, c'est-à-dire qu'on puisse commencer à explorer et à exploiter les richesses du territoire libanais pour que le Liban finisse enfin par sortir de sa crise sociale, économique, humaine, qui règne maintenant depuis un certain temps, pour ne pas dire depuis quelques années.
Merci, monsieur.
Et pour preuve du sérieux de sa démarche, il a été envoyé 3 drones que vous avez signalés dans votre reportage, et ces 3 drones ont démontré 2 choses, la capacité de la résistance de faire le nécessaire, mais encore une fois l'échec de l'État libanais, parce que les responsables, ou en tout cas un certain nombre de responsables politiques, notamment le gouvernement libanais et plus précisément le chef de gouvernement, se sont tout de suite rétractés en disant ça ne représente pas, alors que sans ce rapport de force, rien ne peut être démontré et rien ne peut avancer. Et c'est là que je dis l'État libanais est en situation d'échec et seule la résistance est capable aujourd'hui de rendre au Liban ses capacités et ses moyens, ainsi que la possibilité d'exploiter ses ressources.
Merci, Maître André Chami. Alors, pour citer Nasrallah, la main qui touchera nos richesses sera tranchée. Ce sont les propos que vous venez donc de justifier. Il y a également le général libanais à la retraite, Charles Abinader, qui a indiqué que, selon lui, Hassan Nasrallah veut en réalité relancer les négociations sur le tracé de la frontière maritime. Monsieur Luc Michel, qui nous a rejoint pour le débat géopoliticien, est-ce que vous êtes d'accord par les propos que je viens de citer, mais également parce que Monsieur Maître André Chami vient d'indiquer?
Tout d'abord, mon salut à votre équipe, à Maître Chami. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Aujourd'hui, le sens de l'État libanais est uniquement défendu par la résistance. L'État libanais a été fragilisé parleraient américains et français depuis 2 ans pour déstabiliser l'État libanais. Et aujourd'hui, le vol des richesses libanaises est relancé par la guerre du gaz ouverte en Ukraine contre la Russie. La résistance libanaise aujourd'hui, elle incarne la dernière digue derrière laquelle se protège l'État libanais. Et heureusement qu'elle existe, parce qu'autrement ce serait la perdition complète des intérêts libanais.
Merci, Monsieur Luc Michel. Alors, vous dites donc la résistance, et vous avez également parlé du côté mondial de la crise. Maître André Chamet, est-ce que vous êtes d'accord? En fait, cette histoire de Karish n'est pas qu'une nationalisation des biens et une protection des biens du patrimoine. Il y a également un élément assez international, assez mondial dans ce projet gazier.
Il est incontestable qu'aujourd'hui, cette affaire-là prend une dimension régionale, voire internationale, parce que dans la guerre de gaz et de pétrole qui oppose, entre guillemets, la Russie au monde entier, pour ne pas dire à l'OTAN et ses alliés, aujourd'hui, chaque morceau de terre où il y a du gaz ou du pétrole devient indiscutablement et immédiatement un enjeu important. Et aujourd'hui, ce qui se passe au Liban et ce qui se passe également au sein de l'entité sioniste, parce que la crainte est d'empêcher cette entité, et bien entendu, de continuer d'exploiter, puisque c'est la menace livrée par Saïd Hassan Nasrallah. Par conséquent, ce que l'entité sioniste voulait utiliser comme un moyen de se rapprocher à l'Occident et montrer qu'il peut encore apporter son soutien et devenir un acteur majeur et qui serait à protéger, parce que comme il ressent un enjeu stratégique, c'est-à-dire existentiel, qui peut menacer carrément son existence, il va négocier, ou en tout cas cette entité aurait l'intention de négocier une protection supérieure, une même protection internationale, face à la menace iranienne et face à la menace de l'axe de la résistance, et en utilisant, en tout cas en croyant utiliser, les rapports avec la Russie. Or, aujourd'hui, le premier rempart, effectivement, s'est érigé, qui est en l'occurrence la résistance libanaise en la personne de Saïd Hassan Nasrallah, qui a montré que tous ces jeux-là ne peuvent pas se faire sans la résistance et sans la préservation de l'intérêt du Liban. Mais également derrière ça, il y a le rôle de l'ensemble de l'axe de la résistance qui revient sur la scène pour dire: vous n'allez pas nous diviser, on ne va pas permettre à l'entité sioniste de redevenir acteur majeur, en tout cas de jouer le rôle d'un acteur majeur dans l'équation qui existe aujourd'hui. Si vous nous empêchez d'exploiter, on vous empêche d'exploiter, et bien entendu cette menace pèse lourd dans ces rapports entre l'entité sioniste et le monde entier, et notamment par rapport à l'Occident, mais également c'est le retour en force, et par la même occasion, le retour au recours à la force sur la scène internationale, et plus particulièrement sur la scène régionale, c'est-à-dire quand la résistance dit son mot, c'est l'ensemble de l'Occident qui est, pour reprendre le terme de Saïd Nasrallah, est sur un seul pied ou sur une seule jambe, parce qu'ils sont dans la peur qu'une guerre ne se déclenche, et derrière cette guerre-là, évidemment, c'est l'ensemble de la fourniture de gaz dans la région qui se trouverait menacée, parce qu'il n'y a pas eu d'appui supplémentaire des pays du Golfe. L'Occident comptait en quelque sorte sur l'entité sioniste pour apporter ce supplément dont il a besoin, et bien ce supplément tardera à venir en face, ou plutôt face à la transigeance de la résistance libanaise et face à la capacité de menace réelle et sérieuse à l'encontre de l'entité sioniste. Nous sommes donc face aujourd'hui à un défi majeur pour l'ensemble de l'Occident, et cet Occident aujourd'hui se trouve totalement paralysé par les quelques mots qu'a pu prononcer Saïd Hassan Nasrallah, et a permis à ce moment-là à tout le monde de se mettre en alerte en disant: nous devons donc trouver une solution. Et c'est la raison pour laquelle les États-Unis ont dépêché leur émissaire Hochstein, qui est en réalité l'allié des sionistes, mais derrière ça, il essaye de trouver une sortie de crise qui n'est pas prêt de sortir actuellement.
Merci,
parce
monsieur.
Que les Israéliens continuent de vouloir obtenir des avantages supplémentaires qu'ils n'ont pas eu jusqu'à présent.
Merci, maître André Chamy. Alors, vous avez parlé de l'axe de la résistance. Quand on pense à l'axe de la résistance, on parle notamment du Hezbollah, qui a été, avec l'Iran, un axe très important, mais pas que. À l'heure actuelle, on parle d'un axe à plusieurs fronts. On pense à la Syrie, on pense à l'Irak, on pense également au Yémen, mais pas que. On n'oublie pas également l'Algérie, qui n'est pas très loin et qui est également un pays qui donne accès à la Méditerranée. Est-ce que vous n'avez pas un enjeu complètement concernant la mer Méditerranée et les enjeux géopolitiques en mer Méditerranée, monsieur Luc Michel?
Écoutez, ce qui a changé, c'est le contexte géopolitique. La neutralité bienveillante de la Russie vis-à-vis d'Israël est terminée. Aujourd'hui, la Russie se tient à côté de l'axe de la résistance. Le Hezbollah et Al-Sarrallah ont été reçus à Moscou. Et dans la guerre du gaz, évidemment, les Russes ne laisseront pas faire ni les Américains ni les sionistes. Il y a une deuxième chose qu'il faut retenir dans tout cela. Évidemment, c'est la question de la Méditerranée. De l'aveu même des Américains, il y a des déclarations de l'amiral Gotton, troisième bidon. C'est l'amiral américain, il est peu connu, mais il commande toutes les flottes américaines en Méditerranée et en Afrique et en Eurasie. L'amiral Gotton tire un constat d'échec des Américains en Méditerranée. En Méditerranée orientale, l'axe Sébastopol-Tartous a neutralisé les flottes de l'OTAN et maintenant le combat est pour la neutralisation des flottes de l'OTAN en Méditerranée occidentale. Dans ce contexte, c'est l'axe Alger-Moscou qui est en première ligne face à un axe Maroc-USA. Voilà donc ce contexte géopolitique dont bénéficie évidemment l'axe de la résistance qui n'est plus tout seul face à Israël, mais aujourd'hui, la Russie alliée de l'Iran est intervenue.
André Chamy, quand on entend les critiques concernant la volonté de guerre, entre guillemets, parce que est-ce qu'il y a volonté de guerre quand on veut surtout donner un levier au Liban pour contrôler donc son patrimoine, c'est ce que vous avez dit, protéger ses terres, donc notamment ici les ressources des mers. Est-ce que vous auriez des choses à répondre à ceux qui critiquent ces phrases assez violentes du leader, du secrétaire du Hezbollah? Est-ce que vous auriez quelque chose à indiquer?
En réalité, Saïd Hassan Nasrallah a imposé une équation. Et cette équation, c'est celle qui tienne, parce que les négociations internationales, les négociations à travers l'ONU, les négociations à travers les intermédiaires ne marchent pas. L'entité sioniste, il n'y a qu'un seul langage qu'elle comprend, c'est le langage de la force. La force contre la force. Aujourd'hui, si Saïd Hassan Nasrallah, l'Iran et leurs alliés sont capables aujourd'hui de faire face à cette entité, c'est en raison de ce rapport de force qui a été imposé. Que l'on veuille ou non, que les Libanais le veuillent ou non, que notamment le gouvernement libanais l'accepte ou pas, il n'y a que ce moyen-là. La modération ne marche pas, la négociation ne marche pas, la négociation avec ce que j'appellerais moi le pistolet sur la table marche. Et c'est le seul moyen qui tienne avec l'entité sioniste. Et aujourd'hui, comme ce langage est compris des deux côtés, évidemment, Saïd Hassan Nasrallah l'a imposé, il a mis son pistolet sur la table et maintenant il leur a dit maintenant on va négocier.
Et pourquoi les contre-négociations? Excusez-moi. Et pourquoi les contre-négociations avec l'entité sioniste n'ont pas fonctionné? Parce que de partout on peut lire que Israël, l'entité sioniste, aurait fait des contre-propositions, notamment de laisser tomber un autre champ gazier, notamment par d'autres des autres plans financiers. Pourquoi le Liban et surtout le secrétaire du Hezbollah ne souhaite pas prendre part à ce genre de négociation? Pourquoi il reste strict dans sa manière de négocier pour Karish?
Parce que en réalité, ce n'est pas une question de Karish ou pas Karish. La position de Saïd Hassan Nasrallah est claire. Moi, je confie la responsabilité de délimiter le territoire, de fixer nos limites territoriales à l'État libanais. Je ne suis pas l'État libanais, il faut prendre son discours dans sa globalité. Il dit « je ne suis pas l'État libanais, je suis le défenseur des intérêts du Liban, mais je ne suis pas l'État libanais. Si l'État libanais accepte 10 km, je dirais oui. Si l'État libanais accepte 100 km, je dirais oui. Mais par contre, le fait de dilapider les ressources libanaises, moi je serais contre le fait que les Israéliens prennent possession de ces ressources libanaises, et bien entendu je serais contre, et à ce moment-là je déploierais ma force et j'utiliserais à ce moment-là ma puissance. Mais il a confié la négociation à l'État libanais, mais il y a des limites qui ont été fixées par l'ensemble de l'exécutif libanais, même en coopération avec l'Assemblée nationale libanaise, puisqu'il y a eu une intervention et du Premier ministre et du Président et du Président de l'Assemblée pour fixer le cap et indiquer ce qui est acceptable pour l'État libanais. Jusqu'à maintenant, l'antisioniste ne l'a pas accepté, essaie de tergiverser. Le Saïd Hassan Nasrallah a dit à ce moment-là, bien entendu, nous, à chaque fois qu'il faut défendre notre territoire, nos moyens, nos ressources, nous le ferons. Raison pour laquelle, dernièrement, vous l'avez, en tant qu'observateur avisé, vous avez pu le constater, que maintenant, un certain nombre même d'hommes politiques libanais reviennent à charge en disant « Maintenant, on s'appuie sur notre résistance, on s'appuie sur notre force pour défendre nos droits. » Il y a quelques mois, ils n'avaient pas ce langage-là. Pourquoi ? Parce que maintenant, ils savent qu'ils peuvent s'appuyer sur Saïd Hassan Nasrallah, ils peuvent s'appuyer sur l'axe de la résistance, laquelle a donner le là de cette bataille, et cette bataille, à mon sens, sera gagnée par la résistance libanaise et par l'axe de la résistance qui est derrière elle.
Merci, Maître André Chami. Monsieur Luc Michel, pour revenir au côté méditerranéen de la situation, quel serait le conseil que vous pourriez donner par rapport aux autres pays de Méditerranée qui voudraient éventuellement s'opposer également à la résistance, parce qu'on pense au gazoduc que souhaitent construire les sionistes en Méditerranée. Est-ce que les pays comme la Tunisie ou la Turquie ou l'Algérie auraient un avantage en fait à seconder ou à épauler le Hezbollah à l'heure actuelle?
Écoutez, le soutien à l'axe de la résistance est le soutien logique dans la configuration actuelle. Il y a d'ailleurs un front américain qui est en train de se constituer par la Russie, l'Iran et le Venezuela. On le voit notamment dans les manœuvres, les grandes manœuvres Vostok 2022 qui sont entamées en Russie. On le voit par la constitution des Iraniens, les Russes et les Vénézuéliens d'un peuple du gaz. C'est tout cela qui se pose. Mais je suis d'accord avec Maître Chami. Il faut comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe au Proche-Orient, c'est une guerre hybride. La guerre hybride, elle n'a pas été inventée par les Russes en 2013, mais par les Libanais en 2010. La caractéristique de la guerre hybride, c'est qu'elle voit s'engager des acteurs non étatiques, mais bien entendu, c'est tout bénéfice pour le Liban, puisque si l'axe de la résistance échoue, ça n'engage pas le Liban, mais s'il réussit, ça veut évidemment puissamment servir l'État libanais. Maintenant, vous avez mentionné la Turquie. Comme d'habitude dans cette configuration, la Turquie a une attitude ambiguë que j'appelle moi simplement de la trahison à propos de coup d'État opportuniste. Le rapprochement d'Erdogan avec les sionistes est au cœur de la guerre du gaz. C'est de celui-là qu'il faut se méfier. La Russie n'a pas, la Turquie n'a pas renoncé à ses ambitions à Chypre et en Libye. Et évidemment, elle cherche à se rapprocher d'Israël parce qu'elle a tout à perdre dans la nouvelle guerre du gaz.
Merci. Merci.
Dans lequel, laissez-moi terminer, les Émiratis, les Saoudiens et les Qataris ont basculé du côté de la Russie et du côté de l'Iran et de soutiennent tous les Occidentaux.
Merci,
Luc
Michel.
Le rôle géopolitique de la Turquie, c'est donc de soutenir l'offensive israélienne dans la guerre du gaz.
Merci à vous, Monsieur Luc Michel, pour votre point de vue. Merci, Maître André Chami, pour votre participation ainsi que pour votre point de vue. Notre débat finit maintenant. Je vous remercie. C'était donc un sujet extrêmement épineux qui touche absolument tous les pays du Moyen-Orient et pas que, la Méditerranée aussi. Je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau débat.
Une œuvre.
Ce n'était plus possible. La plume n'exprimait plus mon cœur. Il faut déposer les plumes, me dit-il dorénavant. L'arme blanche de la parole est impuissante. Il me faut chanter pour la guerre, par le canon du fusil, avec la cartouche en guise de mot. Reysar Aminpour est né en 1959 et meurt en 2007. Fils du sud iranien, Reysar est né dans un village aux environs de Desfoul et fut à ce titre un témoin, qui plus est vigilant, de la guerre irako-iranienne. À n'en pas douter, cette tragédie marqua profondément son œuvre et le rangea dans les premières années de sa carrière poétique dans le camp des poètes dits révolutionnaires, de ceux qui s'appliquèrent à chanter le courage et le dévouement dont firent preuve les martyrs de la guerre. De l'idéalisme de ces années-là, il passe ensuite au réalisme en donnant ainsi le jour à ses plus belles œuvres poétiques. Les miroirs soudains figurent parmi les textes de cette seconde période. D'une facture poétique plus moderne du point de vue thématique et formel, son vers acquit alors plus de liberté et s'ouvrit, comme il le dit lui-même, à des termes nouveaux, voire spécifiques comme « avion », un lexique inapproprié pour ce qui concerne la poésie classique. Le souci de définir la complémentarité de la poésie moderne et classique constitua l'une des préoccupations majeures de Reysar Aminpour, comme le prouve le choix de sa thèse de doctorat. Une introduction à l'esthétique de la poésie moderne et classique. Le poète s'est aussi exercé dans le domaine de la poésie pour l'enfance et la jeunesse qu'il contribua à développer avec talent. L'inévitable jour. Ces derniers temps, au passage des jours, je sens que crie quelqu'un dans le vent. Je sens qu'un lointain familier m'appelle du fond des chemins brumants. Le ton familier de sa voix ressemble au passage de la lumière, au passage d'un anrouse, à l'arrivée du jour. Cet inévitable jour qui viendra quand les passants courbés prendront un instant le temps de lever la tête pour voir le soleil dans le ciel. Le jour quand ce train ancien s'arrêta sans raison sur les lignes parallèles de la répétition pour laisser ses yeux ensommeillés voir de derrière les fenêtres l'image des nuages dans la toile et le dessin renversé de la forêt dans l'eau. Ce jour-là, les mains intimes entameront leur vol à la recherche de l'ami. Ce jour sera le jour nouveau de l'envol, où seront ouvertes les lettres, où l'on enverra la colombe, dont l'aile sera signée, en lieu et place de la lettre, du sceau, du timbre. Alors, les nids de colombe feront office de boîte à lettres. Le jour où la main ne quémandera plus, la sollicitation sera un péché et l'essence de Dieu ne s'allongera plus sur des journaux, sous les pieds des arpenteurs des trottoirs. Le jour où sur les portes, on écrira simplement « Entrée interdite à la servilité ». Et les genoux fiers et épuisés ne toucheront terre qu'au pied de l'amour. Les histoires réelles d'aujourd'hui ne se produiront qu'en rêve. Elles auront comme les contes anciens, des dénouements heureux, le jour de l'abondance du rire, d'un rire généreux, le sourire généreux des yeux. Ce jour-là, la générosité du rire sera de règle en amitié. Le jour où les poètes ne seront plus obligés de vendre leur sourire dans les gorges étroites des rimes. Le jour où on ne marchandera plus le prix du sentiment comme celui du vêtement. Ce jour-là, les papillons asséchés s'envoleront du milieu des feuilles du livre de poèmes. Et le sommeil bâillera dans la bouche des fusillades. Et les vieilles bottes militaires se noueront aux toiles d'araignées, au fond de musées anciens. Le jour quand, aux mains des enfants, les ballons se gonfleront devant. Le jour où le ver ne sera plus jaune. Quand aux fleurs, la permission sera donnée d'éclore où elle désire. Quand les cœurs seront autorisés à se briser selon leur convenance. Quand le miroir n'aura plus le droit de mentir aux yeux. Et le mur de pousser sans fenêtre. Ce jour-là sera court le mur du jardin et celui de l'école. Il n'y aura qu'une haie d'imagination, clôturant le jardin au lointain et facile à franchir. Le jour où le ciel ne soupira plus après les étoiles, le jour où ce était ce jour n'aura point besoin de métaphores. Ô beaux jours arrivants, ô chemin perdu dans le brouillard, ô dur jour de continuation, sortez de derrière les instants, ô jour ensoleillé, ô bleu comme l'œil de Dieu, ô jour d'arrivée, ô clair comme le jour ton arrivée. Ces derniers temps, au passage des jours, je t'attends. Mais dis-moi, si je vivrai moins, le jour où tu arriveras. Hossein Monzavi, avec l'amour dans le voisinage du désastre. Né en 1947 à Zanjan, Hossein Monzavi a mené une vie difficile, voire miséreuse. Il mourut en 2004, à l'âge de 58 ans, d'un cancer du poumon. À l'âge classique, Hafez et Saadi furent les maîtres incontestés du Ghazal, court poème d'amour. La poésie contemporaine a également le sien, Hossein Monzavi. Ce dernier est considéré comme le sultan du Ghazal et pratique ce genre avec un talent d'artisan auquel se mêle une sensibilité moderne. Il chante l'amour, mais sa poésie reste désespérément triste, parfois même pessimiste. Il garde en quelque sorte les pieds sur terre, dans le carré de la vie. La forme du Ghazal fait office de repoussoir face aux atrocités de cette vie, lesquelles se font jour dans ses poèmes libres. Aussi simple que ça, et je survis avec l'amour, sont les deux recueils en vers libres dans lesquels le poète révèle ses angoisses existentielles ainsi qu'un étrange sentiment de départ. Il se plaint de la fuite du temps qui, dans sa fuite, empêche de cueillir à temps même le fruit amer dans ce jardin. On trouve tout de même chez Hossein Monzavi une vision généreuse de la vie. Malgré le fait qu'il ne cesse de se confronter à la grisaille de la vie, il continue de la chanter. Il tente à ce titre de mettre en valeur les rares beautés qui s'y trouvent. Aussi, au lieu de se méprendre sur l'existence, en révèle-t-il la splendeur sous les traits d'une seule et unique fleur. Relâche donc la gorge de la fleur. Dans cette même optique, il considère le mal comme faisant partie intégrante de l'univers, lequel ne doit guère éclipser les autres aspects du monde, même si ce mal atteint sa propre vie. Sur la table, je dispose ma vie, feuille à feuille, adieu, les vies de papier, dont le reste solennel dépend du jeu d'allumettes et du doigt. La lune et le guépard. De mon guépard, le fol espoir fut de bondir vers la lune pour la faire descendre de son éminence sur la terre. Mon guépard, mon cœur fier, bondit, mais il érafla le vide, car hors de portée était mon amour, ma haute lune. Adieu, ô fleur épanouie, bien que de ta rencontre, l'instant fut le début en moi d'une tentation, de voir et de cueillir. Toi et moi, nous sommes ces deux lignes, fatalement parallèles. Croyant tous les deux, dès le commencement, ne jamais nous rejoindre. Nulle fleur morte ne revint à la vie. Cependant, le printemps n'eut de cesse de souffler dans la bignonne. J'avais demandé du vin, pourtant la vie, du poison me versa dans la gorge. Ce vieux malin rusé avait comme prétexte de ne pas m'entendre. Quel triste destin que celui du petit ver à soie, et s'enfermer dans un cocon la vie durant. Mais il rêvait de vol.
Thank you.